France Culture.
Bonjour le Book Club, alors Nadie Nada Nunca en quelques mots. C'est un roman dans lequel j'ai beaucoup attendu qu'il se passe quelque chose. Mais on reste finalement dans un climat de menace du début à la fin. Une menace qui ne s'explique pas, qui est diffuse et oppressante. Et le paradoxe est d'autant plus énigmatique que les personnages principaux ne semblent pas du tout inquiets de la situation.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Juan José Saer, écrivain argentin, né de parents immigrés syriens en 1937 et installé en France à la fin des années 1960, intéressé, peut-être influencé par le mouvement du nouveau roman, est auteur d'une œuvre riche, dite parfois expérimentale, une œuvre sur le temps, concentrée sur la recherche stylistique, admirée aux quatre coins du monde et comparée à celle de Borges. Grand lecteur, grand joueur, grand travailleur, cinéphile, il écrit une partie de son œuvre en exil donc, et le dernier texte, Grande Fugue, paraîtra après sa mort, survenue en 2005. Admiratif de son livre L'Ancêtre, l'éditeur Frédéric Martin entreprend de publier son œuvre, peut-être moins lue et peu trouvable au sein de la maison d'édition du Tripode. Reparaît ces temps-ci Nadie Nada Nunca, dans la traduction de 1982. Perrine Guéguin, qui a consacré sa thèse à l'auteur, est notre invitée pour parler de ce roman fascinant, pris dans la torpeur mystérieuse d'un été où l'on assassine des chevaux. Nous sommes ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Perrine Guéguin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de soutenir votre thèse, principalement basée sur des archives, vous nous direz lesquelles, et consacrée à l'inlassable recherche stylistique de Saer. Merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous en prie.
Pour parler de son œuvre et de ce livre en particulier. Je le disais, Nadie Nada Nunca paraît dans la traduction initiale de 1982, signée Laure Bataillon, et ce, aux éditions du Tripode. Peut-être qu'on va parler de lui un petit peu, avant de s'intéresser particulièrement à ce texte-là. Il écrit à partir de quelles années ?
Alors, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il écrit à partir de ses 13 ans. Donc, il écrit de nombreux poèmes, de nombreux poèmes, des cahiers, semblerait-il, dont on n'a pas de traces, puisque chez sa sœur qui a hérité de la maison, on n'a retrouvé aucun cahier. Chez Saer, il y a cette idée de l'archive qui est occultée, qui est parfois brûlée magistralement par un jeune écrivain.
Vous voulez dire dans ses fictions ?
Oui, dans ses fictions, mais on se demande du coup s'il l'a véritablement fait ou pas. Et il dit dans ses papiers de travail, je ne veux pas qu'on considère mes erreurs comme des choses géniales. Je suis écrivain, mais il y a les papiers qui sont privés. Donc il commence vraisemblablement à écrire à partir de 13 ans, mais ses véritables romans, il les écrit dans la vingtaine et c'est là qu'il commence à être publié.
Il est publié assez facilement ?
En la Sona, il est publié en 1960, alors dans une très petite maison d'édition et dans sa région. Donc c'est des petites publications au début.
Mais c'est un jeune auteur, il est publié de manière quand même assez spontanée et très jeune. Il dit souvent qu'il a eu conscience, et je crois pas que ce soit un mot prétentieux, de bâtir une œuvre importante. En tout cas, il y avait quelque chose de l'œuvre avec ambition littéraire, cela depuis le début, Perrine Guéguin ?
Oui, en fait, il se destine à être écrivain. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, il y a ce qu'il nomme « el oficio de poeta », le travail de poète. C'est une profession. C'est-à-dire qu'il prend ça à bras-le-corps par ses lectures, par ses fréquentations. C'est au centre de son existence. Et effectivement, il aiguise son regard et son projet littéraire est présent dès le début. Il veut apporter quelque chose à la littérature. Mmh. Voilà, et il le sait dès le début.
Et s'il veut apporter quelque chose à la littérature, c'est bien qu'il a conscience que quelque chose existe et qui s'appellerait la littérature. Et il grandit dans quelle maison ? Quelle est la fréquentation qu'il peut avoir des textes, des livres et de la littérature ?
Alors, c'est surtout avec son cercle d'amis. Ils échangent beaucoup à Cerodino, puis à Santa Fe. Ils sont baignés de littérature, ils s'échangent des livres en permanence. D'ailleurs, on le voit, tous ces personnages sont des personnages relativement lecteurs et ou écrivains ou travaillant dans la presse. Donc, il y a une ambiance comme ça. Lui, ses parents, en fait, le destinaient à être avocat. Et il refuse en fait ce destin-là, quitte à devenir même à un moment vendeur d'encyclopédies en porte-à-porte. Et il se fait écrivain et lit de plus en plus, cherche de plus en plus des connexions littéraires et normales. Notamment, son maître, c'est Juan El Ortiz, donc le grand poète de cette région-là, qui était quand même un poète mineur, c'est-à-dire que il y a
Et quand vous dites son maître, c'est-à-dire que certes il s'y réfère, mais ça a quoi comme place dans sa vie et dans son œuvre à Saer?
Bah déjà, il le fréquentait très souvent avec ses amis. C'est quelqu'un qui l'inspire d'un point de vue poétique, avec qui il a des grandes conversations. Et aussi, s'il y a d'un côté cette un peu destinée manifeste de je souhaite devenir écrivain, je serai écrivain, il y a aussi l'idée de ne pas le prétendre, de ne pas dire, de ne pas d'aller vers le registre mineur, d'être
c'est
plutôt
bizarrement pas égotique comme,
voilà,
comme affirmation,
d'être un écrivain qui ne médiatise pas l'œuvre, qui reste une personne assez cachée, qui souhaite en fait que ses livres, c'est Martin Cohen qui emploie cette expression, en fait, qui met ses livres devant lui comme des paravents afin que ses livres soient reconnus et non pas sa personne en fait.
J'ai mentionné ce départ pour la France au milieu des années 60. J'ai lu 1965, j'ai plus souvent lu 1968. C'est à la faveur d'une bourse d'études ?
Oui, en fait, il était professeur de cinéma en Argentine et il demande une bourse d'études pour venir à Paris et parce qu'il est très intéressé par les écrivains du nouveau roman. Donc le saut se fait à la faveur justement d'aller étudier ce mouvement littéraire et en fait il sera quelque part exilé malgré lui puisque c'est pas un exilé choisi. Alors certains comme Béatrice Sarlot parlent de lui comme d'un exilé, lui il se considérait pas du tout comme un exilé, mais il disait qu'il était qu'il avait toujours été contre la dictature et que bien sûr sa position était celle d'un exilé sans qu'il le soit véritablement.
Alors qu'est-ce qu'il réfutait dans le terme exilé ? Qu'est-ce qui dans quoi il se reconnaît pas ?
En fait il montrait bien qu'il n'était pas parti à cause du régime. Il était parti bien, enfin, quelques années avant, et que du coup, il ne pouvait pas prétendre à ce statut politique, en fait.
Mais par contre, bien sûr, depuis sa position, alors d'exilé ou pas, en tout cas vivant en France, il s'opposait politiquement à ce régime. J'ai écouté, par exemple, un entretien de 1999 où il est au micro de Pascal Casanova, qui le présente presque comme un écrivain français. Et il dit non, je tiens absolument à rester un écrivain argentin. Et il s'exprimait sur la vie politique argentine. Enfin, il n'était pas du tout coupé ou détaché de ce pays dont il venait.
Non, en fait, on le voit dans sa correspondance. Il est totalement présent auprès de ses amis, etc. Il veut toujours avoir des nouvelles, il s'informe tous les jours, mais il ne peut pas prétendre avoir le statut de quelqu'un qui est parti à cause du régime. Il le critique de l'extérieur, mais il le fait en tant plus vers la fin du coup de sa carrière en tant que personne publique, jamais vraiment à titre personnel et jamais il ne fait de son œuvre une œuvre contrairement par exemple à Roberto Bolaño, une œuvre de revendication politique.
Non, il se méfie d'ailleurs et il se défend d'utiliser, si j'ai bien compris, dans ce cercle-là à la fois littéraire et politique, d'utiliser la littérature pour défendre des idées politiques. Vous le mentionnez, vous avez travaillé sur des cahiers, des archives. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelles archives, Perrine Guéguin ? Et puis, qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Avec quelles hypothèses vous travaillez là-dessus ? Et pour en tirer quoi comme conclusion ? Parce que vous avez glorieusement soutenu votre thèse il y a quelques semaines.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler donc, avec Julio Premat, qui a dirigé, donc qui était mon directeur, et qui a dirigé la collection des papiers de travail, en fait. Donc, il y avait toute une équipe à la mort de Saer qui a essayé d'ordonner les papiers de travail qui étaient dans son bureau parisien.
Et qui meurt en 2005.
Voilà, il meurt en 2005 et donc sa veuve se retrouve avec un monceau de papiers, etc. Et c'est très difficile en fait de se dire quel va être le destin de ces papiers, en fait. Sachant que Saer disait en rigolant « Ah mais moi mes archives c'est un sac plastique au fond d'un placard ». Et donc l'équipe de Julio Premat, Sergio Delgado, Mariana Dicio, Valentina Litvan, Diego Biecchio et Graciela Villanueva travaillaient déjà sur l'édition de El Entenado Glossa avec plein de notes de critiques génétiques. Et donc ils ont accédé au bureau de l'écrivain, ils ont tout mis en ordre et à partir de ça, ils ont publié 4 volumes des papiers de travail. Donc moi, étant doctorante avec Julio Premat, j'avais déjà eu accès visuellement en fait aux photos qu'ils avaient prises. Et ensuite, les archives ont été envoyées à Princeton. On peut dire qu'il y a 2 facettes à cela. D'une part, mettre Saer au centre de la littérature hispano-américaine, puisque c'est le plus grand centre d'archives de littérature hispano-américaine du monde, et aussi protéger les archives le mieux possible.
Justement, puisque que vous mentionnez l'idée de sa place au centre d'une littérature hispano-américaine, peut-être on peut le situer à la fois dans ce champ-là de la littérature hispano-américaine et puis un peu plus généralement dans la littérature universelle, la littérature mondiale. C'est quoi sa réception à Saer? Je dis que quand le Tripode et en la personne de Frédéric Martin entreprend de republier son œuvre peu connue, peu lue en France, déjà d'une part, est-ce que c'est vrai? Et d'autre part, pourquoi est-ce qu'il y a une forme comme ça de passage sous les radars de son œuvre? Et avant qu'elle ne passe sous les radars, quelle place celle-là?
Alors, d'abord, on va dire que c'est un écrivain qui est lu d'abord par les intellectuels, en fait, en Argentine.
Et en France aussi?
Et en France aussi. Et des Argentins intellectuels en France, on va dire. Petit à petit, donc, il est de plus en plus reconnu dans ces milieux-là, mais il reste un écrivain qui n'est pas un écrivain lu par
le tout venant.
Et il y a eu un travail, on va dire, ces 50 dernières années, pour le faire connaître à l'université. Et c'est là qu'il devient un écrivain, on va dire, plus connu du grand public, que ce soit en Argentine ou en France. Et il y a de nombreux cours et séminaires qui sont donnés par les Saériens régulièrement dans les universités de Paris 3, Paris 8, et j'en passe.
Et il a quel statut qu'on pourrait comparer à quels auteurs qu'on connaîtrait davantage?
Bah justement, je pense qu'il n'est pas comparable à d'autres auteurs parce que c'est un écrivain qui se marginalise. Qui
lui-même.
Qui se veut, en fait, il n'aimait pas les interviews, il n'aimait pas les médias, aux grandes dames de son éditeur. Et il ne faisait
qui est d'abord Flammarion en France, c'est ça?
Alors, je parle de son éditeur Alberto Díaz, dans Paris Doche, en Argentine. En France, il avait une bonne relation avec Annie Morvan, qui a dirigé la collection, ses republications chez Flammarion. Mais c'était, en fait, pendant très longtemps, c'était un écrivain qui était plutôt destiné aux intellectuels, à ceux qui savent lire, parce qu'il a des modèles aussi dur à lire, on va dire. Il s'inspire de Faulkner, parfois son phrasé ressemble à un phrasé proustien, on est baigné dans une sorte de ressassement, donc il faut savoir lire aussi, et c'est pas accessible à tout un chacun, mais
je ferais juste une, comme on est au début de cette émission et que je veux vraiment encourager nos auditeurs et auditrices à y aller, je ferais une petite remarque là-dessus, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose de difficile à lire. C'est-à-dire la phrase en tant que telle, ce dans quoi nous sommes pris. Après, peut-être, et on y viendra, ce qu'il faut éventuellement abandonner, c'est l'idée d'une histoire où il y a un début, une fin, une intrigue, des personnages clairs, etc. Mais je trouve que le texte en tant que tel, alors après, moi, je n'ai lu que celui-ci, mais apparemment, c'est l'un des plus expérimentaux, m'a pas semblé dur.
Alors en fait, la prose poétique est très lisible, ça c'est vrai.
Oui, vous voyez, on
sûr,
voit.
Il faut pas décourager, mais on parlait en fait du contexte dans lequel il était lu. Et je disais qu'il était lu surtout par des intellectuels, justement parce que, tout comme en France, les intellectuels lisaient le nouveau roman, qui est expérimental aussi, Saer était lu plutôt par des intellectuels qui connaissaient les codes, qui maniaient les codes de l'analepse, prolepse, etc. Mais bien sûr, on peut en avoir une lecture totalement extérieure, et je recommanderais de commencer soit par Nadine Adanunka.
C'est un bon début, ouais.
Oui, ou alors L'Ancêtre, ou bien L'Enquête, puisque L'Enquête, c'est le roman policier. Et ça, ceux qui aiment les romans policiers, vraiment, se délecteront de cette lecture, je pense, parce que c'est vraiment très bien ficelé. Et ça a un lien aussi avec Nadine Adanunka.
Qui n'est pas d'ailleurs sans avoir de lien avec une idée policière, en tout cas avec quelque chose d'étrange qui se passe, qui a à voir avec la mort et qui nous questionne. Voilà, on pourrait dire dans des grandes lignes comme ça. On a mentionné que c'était un grand lecteur, vous l'avez dit, et ce depuis le début, cercle d'amis, puis ensuite passion pour ce mouvement-là du nouveau roman. Et grand lecteur, je crois, jusqu'à la fin de sa vie, aussi grand lecteur que grand joueur, si j'ai bien compris. Il avait publié au moins un essai consacré à Quichotte. Est-ce qu'on peut dire que ça a été vraiment une sorte de double temps de sa vie, écriture et lecture à égalité ?
En fait, il s'inspire vraiment de la littérature universelle. C'est-à-dire que, alors il a une phrase assez drôle, il dit « l'ontogénie suit la philogénie chez moi », donc ça veut dire en fait que ses lectures ont suivi ses goûts, et quand il est jeune, il lit beaucoup de poésie classique, il lit tous les classiques, et on voit se développer une lecture presque chronologique en fait. Et il tombe amoureux de grands écrivains comme Faulkner. Alors, à cette époque où il joue beaucoup, il s'identifie à Dostoïevski, pas mal. Donc, il fréquente les casinos. On le voit aussi, il y a des personnages dans l'œuvre qui sont
des grands joueurs.
Des grands joueurs. Et la lecture, oui, en fait, c'est un grand lecteur. Mais en même temps, on le voit dans les papiers de travail, il n'annote qu'une phrase ou deux. Mm. Voilà, il annote très peu. Il garde beaucoup de choses dans son esprit. Et après, à l'heure d'écrire, il se sert de ces quelques notes pour appuyer une idée, pour se lancer dans l'écriture. Mm. Et donc, il y a tout un travail mental qui est effectivement très, très impressionnant chez lui, puisque à partir de deux phrases, en fait, il reconvoque. Donc, il y a une écriture mentale qui dépend de ses lectures aussi, qui est assez...
Et dont vous trouvez trace dans ces fameux papiers de travail, dans ses archives ?
Oui, en fait, ce qu'on voit dans les archives, c'est que il écrivait très peu de brouillons, à proprement parler. C'est-à-dire que quand on ouvre un manuscrit saharien, on a l'impression qu'il écrit au fil de la plume. Mmh. Contrairement, par exemple, à Flaubert ou à Proust, où il faut venir recorriger, refaire des épreuves, etc. Là, tout a l'air écrit d'une traite, sans qu'il y ait de plan, sans qu'il y ait beaucoup de préparation, disons. Et en fait, il se servait beaucoup de ses notes et il avait en tête ce qu'allait être son roman. Il disait souvent, j'ai la fin, donc je peux commencer à écrire. Et il commençait à écrire... Voilà, au fil de la plume.
Mais c'est vrai que quand on voit la précision de cette prose et quand même les nombreux éclats poétiques sidérants de certaines pages, on a du mal à imaginer que c'est un texte peu ou pas retravaillé.
Alors oui, moi, dans ma thèse justement, ma thèse, c'est qu'il partait du poétique pour écrire la narration. Edgardo Dobri montre bien dans le titre d'un de ses articles, il dit « poésie en prose fois roman égale la narration ». Serre disait « je n'écris pas de roman, puisque le roman est un genre dépassé, j'écris de la narration ». Voilà.
Et je trouve que c'est une équation parfaite pour parler de ce que j'ai lu.
Ah oui, c'est
poésie en prose fois roman égale narration.
Ouais. Et en fait, je montre que, en tout cas, dans El Limonero Real, donc Les Grands Paradis, qui paraîtra bientôt aux éditions du Tripode, en fait, il partait de tout petits noyaux poétiques pour commencer l'écriture, pour se mettre en jambes, qu'il retravaille peut-être juste une fois, et ensuite, la prose arrive. Et là, la prose se déroule sur des pages, sur des pages, sur des
noyaux poétiques qu'on peut peut-être retrouver plusieurs fois dans le livre. Parce qu'il va y avoir, évidemment, on va parler de cette mécanique de retour, que ce soit à la fois dans la structure globale du texte, mais aussi parfois dans des paragraphes qui eux-mêmes se terminent comme un cercle. Ce sont ces petits noyaux-là qui, finalement, permettent toute la structure de l'écriture ?
Oui, en fait, il y a une tendance à la fragmentation extrême qui rend l'ambiance des romans en général un peu fantasmagorique, un peu hallucinatoire. Dardo Scavino disait que pour Saher, l'écriture, c'est le lieu parfait pour faire onduler désir et hallucination. Mmh. Et il y a cette circularité...
Rajouter mort, peut-être.
Oui, oui, le désir et la mort voilà. Qui vont ensemble, effectivement. Et en fait, chez Saher, il y a cet éternel retour, ce ressassement incessant comme une vague qui revient. Et dans Les Grands Paradis, il y a 9 fragments. Et en fait, dans ces 9 fragments, il y a, tout comme dans Nadia Nadanunka, une répétition, un incessant retour qu'on retrouve également dans l'œuvre, qui a ses propres circularités. Oui, en fait, une des caractéristiques de l'œuvre de Saher, c'est que tous les romans ont des liens entre eux. Tous les romans. Et on va
mais
dire
de l'un à l'autre, ou y compris plus largement, je veux dire, d'un précédent au suivant?
Non. Justement, en fait, il y a des anticipations qui sont créées à certains moments de la lecture que le lecteur ne pourra résoudre que 3 ou 4 romans après.
Et de manière calculée?
De manière totalement, enfin, supposément calculée, ou peut-être a posteriori, mais en tout cas, il y a des choses qui sont posées avant et qu'on ne comprend qu'après.
Oh, oui. Fascinant. On va parler de ce livre Nadia Nadanunka où tout semble très 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 calme et pris dans la torpeur de l'été.
It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's caving in. Wham, bam, you've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham, bam!
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Né en 1937, mort en 2005, les éditions du Tripode ont entrepris de republier son œuvre. Aujourd'hui, nous évoquons le livre Nadia Nadanunka de l'auteur argentin Juan José Saher. Il disait de ce roman qu'il s'appuyait sur une vision discontinue du temps. Il disait aussi, dans un très bel entretien avec sa traductrice en 1981, que dans presque tous ses livres, les personnages ont vis-à-vis de la lumière, du jour, une attitude ambivalente. Et c'est vrai qu'il y a dans ce roman des pages sidérantes de précision et d'érotisme sur la danse de quelques rayons de soleil. Lucidité et angoisse sont une seule et même chose, disait Saher dans ce même entretien à propos d'un autre de ses livres. Le péril, je continue de citer, le péril est imaginaire et la peur est réelle. Dans le roman qui nous occupe aujourd'hui, le péril pèse mystérieusement sur des chevaux assassinés de manière arbitraire et cruelle pendant un été très chaud. Nadie Nada Nunca, c'est le titre du livre paru aux éditions du Tripode, dans la traduction de 1982, signée Laure Bataillon, et dont nous parlons avec vous, Perrine Guéguen. Alors, on va entendre le début d'un chapitre. Au début, je voulais commencer par le début du livre qui m'a tellement saisie. Mais puisque ce début revient si souvent, on va aller un petit peu plus loin, quasiment au milieu du roman, avec ce début qui donc se répète, tendez l'oreille, pour pouvoir peut-être à la fois le commenter et en même temps installer toute l'atmosphère du roman.
Il n'y a au début rien. Rien. D'un côté, la rivière lisse, dorée, sans une seule ride. L'île avec sa berge qui tombe, en pente douce vers l'eau. Sa végétation naine, poussiéreuse. Et de l'autre, les deux fenêtres et la porte noire. Le toit de tuiles. La maison blanche et au milieu, l'étendue vide de la plage jaune. En pente presque imperceptible vers la rivière. Sur laquelle la lumière solaire, comme une énorme combustion jaune, traversée de filaments, coule. Ricoche et réverbère. Assis par terre, son dos nu appuyé contre l'arbre, le maître nageur lit. Dans le silence total de la sieste, le magazine de bande dessinée qu'il appuie sur ses cuisses en pente comme un pupitre. Quand il relève la tête, son regard au milieu ou au lieu de se fixer sur quelque objet précis, semble plutôt se diluer, s'évanouir dans l'espace vide de la plage, qui se referme au loin, sur une muraille poussiéreuse et basse, d'arbres nains, d'où s'élèvent deux saules pleureurs qui penchent vers l'eau. Ce geste, machinal, somnambule, qui se répète de temps en temps, dure quelques secondes, et une fois accompli, la tête se penche à nouveau, et le regard continue de parcourir les carrés juxtaposés, remplis de dessins en couleurs. Quand le maître nageur arrive au dernier carré de la plage de droite, il tourne la page et fixe son regard sur le premier carré en haut et à gauche de la nouvelle page. Sans retirer les yeux des carrés de couleur, il gratte, d'un geste machinal, les poils clairsemés et grisonnants de sa poitrine, entre ses seins flasques et protubérants, près du sifflet réglementaire en métal qui pend à un cordonnet noir autour de son cou. Et après, il laisse retomber sa main par terre, le dos abandonné sur l'herbe cendreuse et clairsemée. Le petit arbre sous lequel il s'est assis pour se protéger du soleil de la sieste laisse passer entre ses feuilles exsangues et blanchâtre, des taches lumineuses qui s'impriment tout autour de lui par terre, sur les images en couleur du magazine et sur son corps immobile, à peine agité, de façon régulière par la respiration, presque imperceptible.
Un extrait de Nadie Nada Nunca de Juan José Saer. Avec ce début, il n'y a au début rien, rien. D'un côté, la rivière lisse, dorée, sans une seule ride. L'île avec sa berge qui tombe, en pente douce, etc., etc., jusqu'à l'île. Et si on avait pris le début exact du roman, Perrine Guéguen, on aurait eu il n'y a au début rien, rien. La rivière lisse, dorée, sans une seule ride. Et derrière, en plein soleil, basse, poussiéreuse, en pente douce vers l'eau qui ronge sa rive, l'île. Une sorte de répétition, variation, qui n'est jamais tout à fait la même chose, mais qui est quand même le retour incessant de ce début où il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut dire du commentaire? Comment on peut commenter cette phrase-là qui nous permettrait de peut-être comprendre quelque chose de ce roman?
Alors en fait, je pense que la prose permet de refléter une certaine immobilité de la vie quotidienne des personnages. Qui sont sous ce soleil de plomb, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas avancer, qui sont quelque part coincés dans cette petite ville de province, dans une ambiance très chaude, assez lourde en fait. Vous disiez que c'est le roman, enfin que c'est un roman très lumineux pour vous. Il me semble à l'inverse que c'est l'un des romans les plus sombres en fait. C'est celui qui évoque le plus la dictature militaire, mais il l'évoque vraiment en filigrane. Et c'est pour ça qu'il y a une menace qui pèse de manière permanente. La question, en fait, Pénélope Laurent disait, dans chaque roman, il y a une question. Chaque roman pose une question au lecteur. Parce que Serre cherche un lecteur idéal qui saurait déchiffrer tous les codes et mettre bout à bout les indices que l'on peut trouver. Et en fait, la question ici, la première question serait qui tue les chevaux? C'est quand même assez angoissant. Il y a un assassin qui circule et qui serait en train de tuer les chevaux.
Et on comprend pas. Parce qu'il, voilà, il tue des chevaux, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de logique à ces assassinats. Simplement, c'est tous des, à chaque fois, c'est des chevaux.
Voilà. Et en fait, il y a quelque chose de très allégorique. C'est-à-dire que d'abord, on tue des chevaux. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, il y a un petit garçon qui trotte et qui hennit. Donc ça, c'est, je pense, vraiment une référence aux hijos desaparecidos, donc les enfants disparus pendant la dictature. Et, mais tout est en filigrane, tout est à décrypter, tout est très subtil.
D'ailleurs,
donc,
à la fin de ce roman que je n'ai pas trouvé lumineux, j'ai trouvé qu'il y avait des pages insensées sur la lumière du soleil, ce qui est tout à fait différent.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais à la fin de ce roman, d'ailleurs, un des personnages se dit, mais en fait, ce qui arrive aux chevaux, est-ce que ça va peut-être nous arriver à nous, le glissement et leur inquiétude devient presque de plus en plus palpable.
Oui, oui, oui. Et en fait, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que d'habitude, l'animalité, elle est du côté du bourreau. Souvent, dans les romans, on en fait des prédateurs. Et là, en fait, un cheval, donc un... c'est vraiment anodin. Ils sont partout, ils aident au transport, ils sont nourris, mais on commence à les cacher. Le narrateur se rend dans une boucherie chevaline sans faire exprès. Il rêve qu'il tient des bouts de chair de cheval entre ses doigts. Enfin, il y a tout un réseau de sens, en fait, autour de qu'est-ce que c'est que cette chair. Elisa aussi, ça, la compagne du chat, donc qui est le personnage principal, est vue aussi un peu comme un morceau de viande. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi du corps de la femme, enfin, qui va de pair aussi avec l'érotisme. C'est un Eros Thanatos très, très puissant, en fait, dans ce roman. Et voilà, je pense que c'est...
On va y venir peut-être à cet érotisme-là, parce qu'en effet, ce couple, Elisa et le chat, passe pas mal de temps à boire de la citronnade, à faire la sieste, à faire des douches, à boire du vin blanc et à faire l'amour. Mais il y a, il me semble, aussi un érotisme très puissant dans la description. C'est-à-dire qu'on vient d'entendre dans l'extrait qui vient d'être lu, la minutie, on sent en lisant des yeux qui se posent. On sent quelqu'un qui regarde un maître-nageur en train de lire une bande dessinée et les yeux même du maître-nageur lisant les cases petit à petit et le soleil se posant précisément. Il y a vraiment quelque chose du regard, alors avec ou bien de l'érotisme ou bien de l'inquiétude, mais qui est très puissante dans la description.
En fait, certains ont voulu le mettre dans la case d'un écrivain réaliste, justement parce qu'il y a une minutie des descriptions, etc. Or, ces descriptions, elles se font toujours à partir d'un narrateur ou d'une troisième personne qui est difficilement identifiable, donc qui reste mystérieux aussi. Qui nous raconte l'assassinat des chevaux? Au début, on sait que c'est le chat qui raconte ses rêves, etc.
Puis, le chat étant un homme. Hein.
Le chat, oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Et il y a un glissement, et donc c'est en ça que c'est beaucoup plus subtil. Et en fait, il y a une accumulation de détails qui vient justement... retarder l'apparition de certains événements. En fait, Saher, ce qu'il disait, c'est que lui, ce qui l'intéressait dans son projet narratif, c'était de réduire l'intrigue. L'intrigue, ce n'est pas intéressant. C'est pas tel personnage rencontra tel autre, puis ils tombèrent amoureux, etc. L'intrigue est minimale. Là, quelqu'un assassine des chevaux. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit, comment c'est écrit, de quelle manière, dans quel détail, avec quelle prosodie, quelle poésie. Donc c'est ça qui est intéressant dans son travail littéraire.
Peu de choses, en effet, entre guillemets, se passent, mais très grande épaisseur dans la manière dont c'est rendu, dont c'est dit, Perrine Guéguin. Et puis il y a aussi, comme vous le dites, tous ces sens qui viennent s'accumuler, ce symbolisme. Le tout premier chapitre, quasiment la première page, s'ouvre sur un saucisson qu'on découpe. Et les tranches de saucisson que l'on prend entre les mains et la graisse qui suinte avec la chaleur. Et très peu de temps après, ça va être le sexe rougeoyant et en érection d'un cheval en rut qu'il ne faut pas monter. Enfin, d'emblée, il y a aussi l'idée que tout va être une sorte de réseau de symboles, de réseau de double sens, de réseau d'images, quoi. Il n'y a pas de narration plate.
Oui, en fait, il y a une intertextualité extrêmement forte dans chacun de ses romans. Avec la littérature universelle, là, on peut lire des références à Faulkner, notamment dans le traitement de la temporalité, les analepses, les prolepses, etc. Il y a des références à l'Ulysse de Joyce, avec des choses un peu qui paraissent absurdes. Il y a vraiment, disons, toute sa culture, en fait, qui transparaît dans son écriture. Et en même temps, ça permet de créer à la fois des réseaux de sens et à la fois de bloquer la compréhension du fond, en fait. Mm. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas important. Mm. Ce qui se passe, c'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est la magie.
On va écouter Tristan, auditeur du Book Club, qui a lu Nadia Nunca.
Bonjour le Book Club. Alors Nadia Nunca en quelques mots. C'est un roman dans lequel j'ai beaucoup attendu qu'il se passe quelque chose. Mais on reste finalement dans un climat de menace du début à la fin. Et le paradoxe est d'autant plus énigmatique que les personnages principaux ne semblent pas du tout inquiets de la situation. Ils prennent l'apéritif, ils font l'amour, ils se baignent. Et bien sûr, il y a ces chevaux que l'on tue aux alentours, mais ça fait partie du mystère. Alors comment le lecteur comble-t-il cet aspect énigmatique du roman ? Eh bien, il va se servir des sons, les couleurs, les mouvements des personnages, donc toute une série de données sensorielles, qui sont les seuls matériaux à partir desquels nous pouvons tenter de reconstruire du sens. Alors c'est fascinant, c'est très intéressant, c'est hypnotique. Petite question pour finir, pourquoi n'a-t-on pas cherché à traduire le titre en français ? Merci de m'avoir écouté, bon vœu à tous.
Trop sympa, merci à vous Tristan et bon vœu en retour. Merci pour votre lecture et pour cette question. Commençons par ça. Perrine Guéguin, pourquoi n'avoir pas traduit, alors c'est pas vous qui êtes l'éditrice, ce titre-là, Nadia Nadanunka ?
Alors, à mon sens, il y a deux raisons. D'une part, l'homophonie entre ces trois mots qui donne un élan poétique et qui intrigue, en fait, et puis qui rend une forme d'hommage à la poésie hispano-américaine, enfin, de littérature en langue espagnole, donc qui attire le lecteur, peut-être. On ne voit pas ça tous les jours. Et d'autre part, si on le traduit en français, ça donnerait « personne, rien, jamais ». Sans virgule, sans ponctuation, sans phrasé, ça perd de son, de sa beauté en
oui,
fait
de sa et sonorité, de ouais.
Voilà. Je pense que ça c'est le premier élément. L'autre élément, donc moi j'ai cherché du côté de la signification. Donc Nadie et Nada, ça vient de natus, donc de la le nez, la naissance, et c'est que plus tard dans la langue espagnole que ça acquiert un sens négatif. Si on pense à son autre roman qui s'appelle L'Ancêtre, c'est El Entenado, c'est le non-né. Donc déjà, il y a un réseau de sens entre ce qui est né, ce qui existe. Et en fait, tout ça renvoie à la question du commencement. Comment on est, comment on commence l'intrigue, comment on commence à écrire. Pénélope Laurent dit très justement, dire au commencement du texte qu'au commencement il n'y a rien revient à faire de ce rien ou de ce néant quelque chose de verbal.
Absolument, mais c'est quand même ça qui est saisissant. Je veux dire, comment est-ce qu'on est accueilli comme lectrice et lecteur quand on ouvre un livre et qui dit « il n'y a au début, rien, point, rien ». Déjà, d'emblée, ça se branche à la poésie, voire ça se branche à la jeunesse, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui nous emporte. Et puis, par ailleurs, ça veut dire que pendant, 250 pages, on va être dans le rien. Qu'est-ce que c'est que ce rien ? De quelle épaisseur il est fait ? De quelle sueur poétique il est fait ? Et je trouve que c'est d'emblée un très grand projet. On entendait Tristan dire « j'ai attendu qu'il se passe quelque chose, j'avais la sensation d'une menace ». Donc, vous l'avez dit, peut-être probablement allégorie d'une dictature, des enlèvements, des disparitions, des assassinats. Une menace qui plane et des personnages qui semblent ne pas s'en inquiéter. Est-ce que vous partagez cette lecture de Tristan ?
Oui, parce qu'en fait, alors je ne veux pas spoiler pour les futurs lecteurs, mais dans certaines résolutions, on imagine qu'il y a des personnages qui ont à voir avec
les assassinats.
Voilà, d'une part, ou qui sont dans la résistance. Bref. Et d'autre part, en fait, ça ne fait que planer. Et comme je vous le disais, en fait, cette idée de... On ne sait pas ce qui advient de El Gato, enfin le chat, et Elisa, son amante, qui forme d'ailleurs un couple incestueux. Hein, ils sont, elle est mariée et elle lui rend visite régulièrement. On ne sait pas ce qu'ils deviennent jusqu'à ce qu'on lise le roman L'Enquête et le roman Glose, où c'est là qu'on apprend que ils ont disparu, ils ont été enlevés, etc. Et la véritable, entre guillemets, résolution de cette énigme-là, elle arrivera dans La Grande, donc le dernier roman posthume, inachevé d'ailleurs, de Juan José Saer, où le double de l'écrivain, entre guillemets, le personnage de Tomatis, va s'affronter à des personnages, à des militaires, pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé.
Comme si les masques allégoriques ou les masques métaphoriques tombaient complètement à la fin.
Oui, en fait, dans la dernière période, enfin dans le dernier roman de Saer, il y a quelque chose qui va vraiment à contre-courant de ce qu'il avait fait jusque-là. Donc c'était voiler, cacher, rendre mystérieux. Et il y a une explosion dans La Grande d'une révélation totale au lecteur qui a été si fidèle. Il y a une explosion de couleurs, quelque chose de très vivant, de très vivace, de très heureux aussi, de l'ordre de la révélation, parce que souvent on dit qu'il a une écriture très épiphanique. Donc justement, il y a beaucoup de choses qui se révèlent, qui sont très belles, du temps suspendu, comme vous disiez, les lumières, etc. Et là, dans La Grande, tous les fils semblent se relier et on finit par comprendre l'ensemble. Et donc Nadia Danunca, c'est un des nœuds, en fait. Mmh. C'est la période expérimentale qui commence, à mon sens, en 1964, donc un petit peu avant qu'il parte d'Argentine, et qui se termine dans les années 90. Ça, c'est vraiment la période expérimentale. Après, on passe à la période plus tranquille.
Et qu'est-ce que ce roman a d'expérimental ?
Déjà la répétition, la répétition sur le mode de la variation, mais également justement cet enchevêtrement, le fait de voiler complètement ce qui se passe pour que le lecteur en fait soit juste pris dans la lecture et ne s'interroge qu'après.
Justement, sur cette idée d'être juste pris dans la lecture ou que s'il y a mystère, il ne serait résolu que dans la phrase, on va écouter le romancier, essayiste et scénariste Tanguy Viel.
Il faut vraiment lire chaque phrase parce que c'est un monde un peu avec l'épaisseur d'un Faulkner. C'est-à-dire que les hommes sont comme, là aussi comme des sortes d'animaux sauvages rendus à leurs pulsions. Et en fait, ces pulsions ne peuvent être rendues que par l'épaisseur de la langue. Et la langue, elle est alimentée par... Sans cesse, l'atmosphère, les orages, la météo, le paysage. Mais il faudrait, là aussi, il n'y a que la phrase qui peut répondre. Mais, donc c'est toujours imprégné de l'histoire de l'Argentine et de l'Amérique du Sud, sans ses racines. Des romans presque ruraux, mais dans une langue qui est très, très organique, très organique.
En 2024, au micro d'Eva Bester, Tanguy Viel qui dit « il n'y a que la phrase qui peut répondre, il faut lire chaque phrase ». Et c'est vrai qu'il y a presque une logique, et s'il n'y a pas de logique, en tout cas il y a une rythmique ou il y a une poétique de la phrase qui dit quelque chose. Donc c'est pas la réponse à l'énigme qui serait « qui a tué les chevaux », mais ce serait presque contenu dans la phrase ou dans la rythmique, la réponse à une énigme qui serait... Je sais pas quoi, la narration.
Oui, c'est ça. Il essaie, en fait, c'est vraiment ça, c'est de réinventer la narration, de réinventer le roman et ce qu'est le roman. Je pense qu'il réussit son pari, largement. Et il y a aussi une idée que le langage ne doit pas être beau ou efficace ou dire quelque chose, mais en fait que la narration rend compte de l'ineffabilité du monde, de l'impossibilité de dire le réel, l'impossibilité d'approcher véritablement ce que nous sommes, ce que nous vivons en tant que conscience. Et il faut souligner aussi que sa bibliothèque était remplie de philosophes. Il lisait beaucoup, beaucoup de philosophie. On voit beaucoup d'allusions à Platon, à même aux sociologues, à Lévi-Strauss. Enfin, c'était quelqu'un de très, très cultivé, qui avait lu Freud. Alors là, il y a quelque chose de l'inquiétante étrangeté aussi.
Absolument.
Dans ce livre-là, ouais. Du très familier qui devient très étrange à un moment. Et donc, je pense que, voilà, c'est une écriture.
Et même Kafka, à un moment donné, avec une sorte d'accouplement étrange entre une araignée, un cheval, et puis il y a tous ces personnages aussi qui ont des noms de, d'animaux qui, en effet, troublent, c'est-à-dire la lecture. En effet, on l'a dit, bon, j'ai dit tout à l'heure, le chat est un homme, mais comme par ailleurs les chevaux sont assassinés, il y a vraiment quelque chose, oui, de la transformation inquiétante.
Oui.
Dans la chaleur, qui plus est.
Oui, en fait, il y a, dans son écriture, il y a la recherche de ce qu'il a appelé aussi, enfin, c'est une sorte d'anti-héroïsme. C'est-à-dire que, il n'y a pas de héros, il faut aller à contre-courant de la littérature. Et puis, je pense que c'est l'occasion, en vous disant ça, de le replacer aussi dans le contexte. C'est-à-dire que, lui, il écrivait au moment où il y avait le boom latino-américain. Donc tout le monde admirait des écrivains comme García Márquez, et lui il disait mais en fait García Márquez c'est bien pour lire sur la plage sous les cocotiers, mais c'est pas un écrivain à la hauteur. Et lui en fait il veut rendre compte d'une opacité, du problème du langage en fait. Et c'est ce que font tous les linguistes, hein, Saussure, etc., dans les années 70. C'est la question de qu'est-ce que le langage et comment il n'arrive pas, en fait, à rendre compte totalement de ce qu'est le réel.
Et finalement, c'est presque un achoppement ou quelque chose qui se cogne, ou de l'opacité du langage qui rejoint l'opacité du sexe. On l'a dit, ce couple, Elisa et le chat, font l'amour, mais finalement, il y a quelque chose qui ne se résout jamais. Le désir est renouvelé, mais quand ils ont fait l'amour, il se passe rien qui serait comme satisfaisant. Ce sont des scènes répétitives très belles, on en écoute un extrait.
À mesure que la fréquence et la densité des ondes augmentent, qu'elles se superposent, chaque fois plus nombreuses, plus rapides et plus profondes, Elisa, les yeux fermés, relève la tête, ouvre de plus en plus la bouche, et tire enfin une langue, droite, tendue, rouge, qui commence par humecter ses lèvres, puis vibre, pointue et rigide, dans l'espace entre les commissures, et finit par lécher le mur blanc. En même temps, ses hanches se mettent en mouvement, d'abord avec un balancement lent de gauche à droite et de droite à gauche, jusqu'à ce qu'un autre mouvement, circulaire, s'ajoute au premier, de sorte que la sphère compacte de ses fesses, saisie d'un rythme complexe, communique ses secousses au corps nu monté sur elle. Avec l'orgasme, les corps atteignent la limite de leur tension, qui dure quelques secondes, puis sans perdre leur rigidité, ils s'abandonnent et se laissent tomber sur le drap blanc, allongés l'un sur l'autre, raides et superposés, comme deux planches de bois. Minutieuse, presque avec bonté, elle prépare un pot de citronnade. L'après-midi s'écoule avec lenteur, imperceptible, et quand il ne reste plus qu'un dépôt trouble et des morceaux de citron exsangues au fond du pot, le chat, qui de la cuisine épiait de temps à autre le cheval par la fente entre le rideau de toile bleue et l'encadrement noir de la porte, décide d'aller le promener vers la fin de la journée, en passant au bord de la rivière et en laissant derrière lui la maison et la plage, où sont revenus les baigneurs, dont les cris, les voix, les clapotis lui parviennent, nets et lointains, sans réussir toutefois à attirer son attention, pendant qu'elle se promène nue dans la maison, ou qu'elle regarde allongée sur le lit la pénombre qui se concentre au plafond de la chambre.
Je ne sais pas si on peut entendre dans la manière dont est construit ce paragraphe, quasiment aussi une partie de la structure du livre, je m'explique, c'est-à-dire qu'elle tire la langue pour lécher le mur blanc. À la fin de ce paragraphe-là, on revient non pas au mur, mais au plafond, Perrine Guéguin. De la même manière, il y a une sorte de passage, il y a un effet de montage entre la scène de sexe et le broc qui contient les citrons pressés, et puis la fente qui n'est plus un sexe ou des fesses, mais la fente qui ondule entre des rideaux. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de je sais pas comment dire, de continuum ou de travelling général par le langage dans la matière, quoi. Et qu'on passe de l'évocation du temps au sexe, au problème du langage, à la torpeur, aux assassinats des chevaux, mais tout est pris dans le même problème du langage.
Oui, alors en fait, il y a une problématisation du langage, il y a une problématisation du regard,
il y a
du temps, de la focalisation. Par exemple, le cheval qui semble observer la scène. Ça, en fait, il faut voir aussi... il y a un montage, effectivement, cinématographique dans nombre de ses œuvres qui nous fait aller... En fait, qui nous... En tant que lecteur, qui nous emmène d'un endroit à l'autre, qui nous projette à chaque fois, sans qu'on les choisisse, vers des images nouvelles, qui semblent ressasser, elles aussi, les mêmes codes, les mêmes personnages, les mêmes redites, mais d'une manière déclinée à l'infini, en fait. Et c'est ça qui est très agréable aussi, parce que tout semble faire sens, tout semble être d'un même pan, même quand on passe d'un paragraphe à l'autre, même si, par exemple, il y a eu une sorte de travelling et qu'on repart en arrière temporellement, on reste dans la même prose, en fait, qui fait lien entre tous les événements, entre toutes les images.
C'est... Et on en revient à ce qu'il dit, lui, c'est-à-dire je ne suis pas tellement intéressée par l'intrigue, même si c'est vrai qu'elle est finalement assez impressionnante, on tue des chevaux, que par la mécanique du récit, la mécanique, la manière de la raconter. On va écouter brièvement une archive de 2003. Il est au micro d'Alain Weinstein, il parle du travail d'écriture.
Je trouve que le travail d'écriture, c'est une sorte de flot continu qui acquiert de plus en plus, plus ou moins d'intensité selon les moments de la production même du texte qu'on est en train de faire. Et que cette intensité, cette richesse, elle est indépendante des formes, des genres, et des formules, des moules déjà établis. Et c'est pour ça que je préfère ne pas aborder la littérature à travers les genres, même si parfois je les utilise, les genres, à mes propres fins. Et je considère toujours le travail d'écriture comme une quête de cette intensité qui fait que, au moment de la lecture, ce qui était un travail de l'intelligence ou de la culture devient un moment d'extase ou de plaisir ou de reconnaissance de soi-même à travers ce qu'on est en train de lire.
C'est la voix de Juan José Saer en 2003 au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain sur France Culture. Il parle du travail d'écriture comme un travail de quête. Vous qui avez plongé dans ses archives, dans la génétique, on a assez peu parlé de ce terme-là qui est un outil d'analyse littéraire, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette quête dans le travail d'écriture chez Saer, Perrine Guéguin?
Alors moi j'ai intitulé ma thèse l'auto-réinvestissement scriptural, ce qui signifie qu'en fait Saer part bien sûr de matériaux intertextuels, donc de ses lectures, mais il ressasse aussi lui-même ses sources et son écriture, non seulement dans les romans, mais dans ses propres cahiers. Il y a des retours comme ça. Donc, par exemple, dans les dernières années de sa vie, il part en Argentine et il écrit dans des petits cahiers toutes ses observations du milieu naturel, de la langue argentine, des expressions, comme s'il voulait se réapproprier un peu ce lieu de l'enfance, sa propre langue, en fait. Et c'est ce qui donnera cet aspect très lumineux à La Grande. Et en fait, il disait, déjà, c'est quelqu'un de très subversif. L'idée, c'est d'aller à l'encontre, de ne pas faire ce que font tous les autres, d'aller à l'encontre du temps, du zeitgeist, aller à l'encontre des autres écrivains, de ce qui a déjà été fait, aller à l'encontre des genres, c'est-à-dire les reprendre, mais les réencoder quelque part. Et donc, lui, il disait, je pense seulement si... Toutefois, j'ai déjà pensé, lorsque j'ai une plume dans la main, lorsque j'ai mon stylo dans la main. Et je trouve cette phrase très belle parce que, en fait, toute la question de la création chez Saer, elle tend vers ce renouvellement incessant. En fait, chaque roman, pour les lecteurs qui l'ont lu à l'époque, était une surprise attendue depuis longtemps parce qu'on savait que ça allait être une nouveauté absolue, quelque chose qu'on n'avait jamais lu sous sa plume, et en même temps le retour de cette prose qui est mystérieuse et qu'on connaît, enfin qui fait preuve de son style, tout comme il y a un style proustien, il y a un style saérien. Dernièrement aussi, ce que j'ai remarqué par rapport à son style, Alberto Diaz, donc son grand éditeur, le disait aussi, c'est que il était asthmatique. Donc il est possible que justement ses respirations fréquentes dans la prose soient le fruit d'une respiration propre, en fait, physique, qui est transmise dans l'écriture. Et on le sait très bien, l'écriture est souvent
une pulsation interne, quoi.
Voilà. Et on retrouve ça aussi dans l'idée de l'écriture comme pulsion, pulsion à maîtriser avant de la mettre sur le papier. Et voilà.
On n'aura pas le temps de faire déjà de dire tout ce qu'on voulait dire sur Nadine Adanunka et de faire la séquence à agenda du Book Club. Simplement un petit signe vers le festival Faraway, un festival des arts à Reims qui revient avec une édition dite captivante dédiée à la singularité de la scène artistique en Argentine. Donc voilà, on vous renvoie, auditrices et auditeurs, vers la page et le programme de ce festival rémois.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Book Club où l'on joue chaque jour au grand jeu des pages musicales, ça consiste à traquer la musique et les airs musicaux dans les livres, sauf erreur de notre part, on n'en a pas trouvé dans Nadine Adanunka.
Non, moi non
pas
plus,
de musique.
Pas... Non.
Vous avez cherché
alors...
Vous avez joué?
En fait, je l'ai cherché dans les romans que moi j'ai étudiés dans ma thèse, dans Les Grands Paradis et La Grande. Forcément, il y a des références qui
partout,
apparaissent
ouais.
Voilà, partout et dès le titre. Non, dans Nadine Adanunka, justement, je pense que c'est voulu, en fait, ce
oui.
Manque de musicalité.
Et l'opacité dont on parlait, et le voilage de l'intrigue, et l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe presque en dehors de notre capacité à l'attraper. Alors, on va jouer avec Laurent, qui nous a envoyé une lecture via le compte Instagram. C'est comme ça qu'on peut jouer, ou alors via le mail lebookclub@radiofrance.com. Il a choisi un extrait d'un livre d'Amélie Nothomb. Le livre s'appelle « Journal d'Hirondelle », paru en 2006 chez Albin Michel. Les musiques qui m'émouvaient auparavant ne provoquaient plus rien en moi. Même les sensations de base, comme manger, boire, prendre un bain, me laissaient de marbre. J'étais châtrée de partout. La disparition des sentiments ne me pesa pas. La voix de ma mère au téléphone n'était plus qu'un embêtement évoquant une fuite d'eau. Je cessais de m'inquiéter pour elle. C'était plutôt bien. Pour le reste, ça ne m'allait pas. La vie était devenue la mort. Le déclic fut un album de Radiohead. Il s'appelait Amnésiaque. Le titre convenait à mon sort, qui était une forme d'amnésie sensorielle. Je l'achetais. Je l'écoutais et n'éprouvais rien. C'était l'effet que produisaient sur moi toutes les musiques désormais. Je haussais déjà les épaules à l'idée de m'être procuré 60 minutes supplémentaires de néant quand passa la troisième chanson, dont le titre évoquait une porte tournante. C'était une succession de sons inconnus, distribués avec une parcimonie suspecte. L'air était bien nommé, qui reconstituait l'attrait absurde du petit enfant pour les portes tournantes, incapable, s'il s'y était aventuré, de sortir de leur cycle. A priori, il n'y avait là rien d'émouvant, mais je découvris au coin de mon œil une larme. Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, Perrine Guéguin, pour parler de ce livre « Nadine Adanunka » de Juan José Saer, publié aux éditions du Tripod. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller chercher tous les livres possibles au Tripod. Vous allez publier votre thèse ou pas ?
Oui, je vais la publier d'abord sur le site de la bibliothèque de Paris 8. Puis, normalement, je vais certainement en extraire des petits ouvrages, puisque j'ai écrit trois chapitres, l'un sur les manuscrits, l'autre sur les manuscrits du Grand Paradis, l'autre sur les manuscrits de la Grande. Donc voilà, on verra.
Donc on va lire. Merci voilà. Infiniment en tout cas d'avoir été avec nous, c'était très généreux.
Votre présence à la réalisation, Vivien de Meyer, à la prise de son, Mineta Jawara. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Garance Roubieux, Léa Weiss-Gruss, Mathilde Wagman et Alexandra Lai-Begovic, qui animent la conversation sur le compte Instagram.